Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Xi Jinping va quitter la France aujourd'hui, cet après-midi. Alors le cognac est épargné, engagement du président chinois. Après la volonté clairement prédatrice de la Chine sur le marché automobile européen, elle reste entière. Il est urgent de refonder les règles de la concurrence en Europe si nous voulons garder une industrie sur le continent, disait dans le JDD le patron de Michelin, Florent Ménégo. Et ce sera sans doute un événement si l'histoire aboutit. En tout cas, le slip français, l'emblème du renouveau au tricolore du textile, n'arrive plus à tenir face à la concurrence des fameux chinois de la fast fashion, Temu et Shine. Alors il tente le tout pour le tout en divisant ses prix par deux. Si la concurrence sauvage de la Chine envoie au tapis une entreprise emblématique comme le slip français, il est certain que ça aura une forme de retentissement. Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des Finances, s'exprime dans les colonnes des Échos. Il est pour les hausses d'impôts. On a ouvert le débat hier de savoir s'il fallait préférer des hausses d'impôts à des baisses de dépenses. Alors Éric Coquerel, il cible les rachats d'actions, les super dividendes. Il veut remettre en place l'exit tax, augmenter la flat tax, l'impôt forfaitaire unique sur le capital et bien sûr s'attaquer au crédit d'impôt. Recherche. Le même Éric Coquerel a une très bonne idée. Si Total Energy décide de s'implanter à la Bourse de New York, il faut nationaliser l'entreprise. Enfin, on regardera d'un peu plus près le contenu de la loi Kasbarian, présentée en Conseil des ministres mercredi. La loi sur le logement qui intervient au moment d'un double choc d'offres et de demandes. Bonjour Philippe Manière.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Président de Valais Solis Communication, auteur du Pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Comme vous êtes là, je me suis dit qu'on allait ouvrir quelques articles de la loi Kasbarian ensemble.
Bonne idée.
Et avec nous Gilles Raveau. Bonjour Gilles.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, auteur de Économie. On n'a pas tout essayé. Je vous donne les deux, trois éléments factuels, les principaux enseignements de la visite de Xi Jinping sur le terrain économique. Donc il n'y aura pas de rétorsion contre le cognac français. La Chine avait pourtant ouvert une enquête contre Hennessy, Martel et Rémy Martin à la suite de l'enquête européenne ouverte sur les pratiques de la filière automobile chinoise. La filière porcine va pouvoir exporter 10% de plus. Les cosmétiques n'ont pas tenu d'avancer, ils espéraient que les exigences réglementaires imposées par la Chine soient revues à la baisse car ils les considèrent comme un piratage de la propriété intellectuelle. Mais la réalité, c'est que c'est le marché automobile le nerf de la guerre. Nous avons un déficit commercial de 46 milliards d'euros avec la Chine et la voiture électrique est tout simplement en train de gangréner intégralement le marché européen puisque les ventes de voitures électriques chinoises ont pris 76% en 2023 et à la fin de cette année, dans l'ensemble de l'Europe, une voiture électrique sur quatre sera chinoise. Même sans le bonus écolo du gouvernement, la voiture chinoise électrique vaut entre 20 et 30% moins cher que son équivalente française. Bon. Donc ça veut dire que les souhaits de Bruno Le Maire exprimés hier de bâtir un partenariat économique équilibré et solide avec la Chine, mon œil. Monsieur Gilles Raveau, que vous inspire la situation ?
Il y a un autre chiffre qu'on pourrait donner pour compléter votre liste radieuse qui nous met de bonne humeur dès le matin, c'est que sur les voitures électriques vendues en France actuellement, il y en a une sur dix qui est faite en France.
Donc, faite en France.
Qui est faite en France, voilà. C'est une sur dix parmi les voitures électriques qui est française.
Enfin, produite en France.
Moi, il y a un exercice très simple que je fais avec mes étudiants pour leur faire comprendre l'économie.
Les Toyota vendues en France sont faites en France.
Non, tout à fait. Produites en France, voilà. Fabriquées en France sur le territoire national.
Oui.
Et donc, moi, mes étudiants, je leur dis, pour comprendre l'économie de façon rapide et à la fois en même temps profonde, je leur dis, voilà, imaginez vraiment que vous êtes Bruno Le Maire. Imaginez vraiment que vous êtes Christine Lagarde. Imaginez vraiment que vous êtes un patron. Imaginez vraiment que vous êtes un salarié, etc. Et là, je me suis dit, imaginons que je sois Xi Jinping. Mmh. Et donc, j'arrive en France, et je suis dans ce pays merveilleux. Donc, je dirige une immense dictature. Bon, je recours au travail forcé, j'extermine un petit peu les opposants, des minorités, tout ça. Et j'arrive en France, et ce merveilleux pays m'accueille, avec effectivement me déroule le tapis rouge, et non seulement j'inonde effectivement, vous l'avez dit, son marché comme le reste du marché européen avec mes produits qui de toute façon seraient ultra compétitifs même sans dumping en raison des écarts de normes sociales et environnementales qui sont bien connus, et en plus ce merveilleux pays va utiliser ses impôts pour acheter mes voitures. C'est-à-dire que il faut quand même qu'on comprenne bien que le fonctionnement, enfin l'écosystème de la voiture électrique en France, c'est je prends de l'argent sur des richesses produites en France, hein, d'une façon ou d'une autre, des impôts, des cotisations sociales, et cet argent, hein, l'État va l'utiliser, et il n'y a pas que l'État, les régions aussi. Il faut voir que les aides à l'achat d'un véhicule électrique, c'est plusieurs milliers d'euros, c'est Gilles, l'État, les régions.
On a réécrit la grammaire du bonus écologique de la voiture électrique, pour en faire un bonus made in Europe ou made in France et pas made in China, sur des critères verts qui aujourd'hui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi.
Oui, mais
bon, après, une fois que BYD va construire en Hongrie, ce sera du made in Europe.
Bah oui.
Probablement qu'à ce moment-là, ils seront à nouveau éligibles.
Mais bon,
on a essayé quand même de ne pas être trop débiles.
Après l'avoir été pendant plusieurs années, bon. Et on continue encore massivement à utiliser d'une façon générale l'écosystème, les infrastructures liées à la voiture électrique, qui vont très largement reposer sur des financements publics, vont très majoritairement bénéficier aux entreprises.
Comment on fait alors ? D'accord, ok. On fait comme Trump ? On met 70% de droits de douane, on se prend des mesures de rétorsion, et puis derrière, on dit au consommateur, tu vas payer plus cher.
Ben moi, ce que j'avais jamais vécu, et je trouve quand même impressionnant, c'est que la presse économique capitaliste de ce pays, comme les Échos hier, nous utilise l'expression quand même de la Chine qui va décimer l'industrie européenne. En une du Figaro, vous avez les inquiétudes énormes des industriels français, et je trouve ça assez fascinant, sur le plan politique d'ailleurs, que de voir que ces critiques viennent plutôt de la droite, que la gauche est très largement silencieuse sur le massacre de l'industrie dont il me semble que sur lequel j'alerte depuis des années ici, et que on a ce raccourci fantastique sur vraiment l'effondrement industriel de notre pays. Et alors, moi je vous le dis très 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 gentiment, j'y pense tout le temps, mais je pense qu'il n'y a plus de solution. C'est-à-dire qu'on a trop de retard, on a trop d'écart, on a perdu les compétences. Notre force, c'était les services publics, l'éducation. Au secours, on est un des pires pays. Enfin, je pense que la France, il n'y a plus de solution.
Il faut arrêter la peur.
Guillaume Poitrinal.
Il faut arrêter la peur.
Guillaume Poitrinal. On essaie de rester quand même sur cette
histoire. Il reste d'abord
en fait. Il a prononcé le mot solution. Moi, j'aime bien qu'on essaie de trouver au moins des idées.
Il faut être très clair. Ça fait 50 ans qu'on annonce la mort de l'industrie automobile française. Elle est encore là. On a Stellantis, on a Renault, l'industrie, elle est encore là. Il y a encore des usines en France, malgré beaucoup de choses, et malgré la concurrence internationale,
le virage électrique,
à laquelle on a résisté,
hein, quand même.
Mais même une concurrence tout simplement hyper européenne, parce qu'en fait, vous savez que, par exemple, 10% du PIB espagnol, c'est l'industrie automobile. Donc Valladolid, c'est un concurrent de Belfort, du territoire de Belfort, etc. Donc cette industrie, elle est encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui ? Il faut parier sur nos forces. Quelle est la force de la France ? La force de la France, c'est assez simple, c'est qu'elle a le mix énergétique le moins carboné du monde. Donc elle produit des voitures avec un bilan carbone de production de la voiture qui est le plus faible du monde. Mais qui le sait ? Aujourd'hui, je sais combien ma voiture va consommer. Je sais que si c'est une voiture électrique, elle va consommer plus ou moins. Est-ce que je connais aujourd'hui le bilan carbone, l'empreinte carbone de mon véhicule ?
Mais Guillaume, combien de personnes vont arbitrer leur choix sur le bilan carbone de leur voiture ?
Qu'on leur dise. Pourquoi ? Parce que les gens...
Tu compares deux véhicules identiques à Stellantis.
Il y a des gens qui sont sincèrement concernés par le climat. Il y a des gens qui sont sincèrement concernés par le climat, monsieur Dose. Tout le monde n'est pas à regarder le portefeuille tous les jours. Il y a des gens qui sont sincèrement concernés par le climat.
Il y a des gens qui ont les moyens d'être concernés par le
Il y a des gens qui ont les moyens.
Et puis, il y a des jeunes qui s'enchaînent sur le périph' parce qu'ils sont sincèrement concernés par le climat. Mais... Il y a des jeunes qui ne prennent plus l'avion. Ça existe aussi.
Oui.
Il faut arrêter de penser qu'on est un prototype unique de gens qui sont l'homo economicus et qui veulent absolument consommer le moins cher possible et n'importe comment. Il y a, je pense, aujourd'hui, une véritable mutation qu'on sous-estime très largement. Et il faut que la France, elle ait son étiquetage carbone de tous les produits.
Je sais que vous y tenez énormément, mais celui qui peut se permettre d'arbitrer sur l'étiquetage carbone, c'est qu'il en a les moyens. J'ai regardé la différence. Juste un exemple. Un SUV chinois, l'équivalent en termes d'options, de qualité, le SUV Stellantis, qui en plus va bénéficier des moins 4 000 euros, voire les moins 7 000 pour les plus démunis de bonus. T'as 4 000, 5 000 balles d'écart à la fin entre le chinois et le français. Oh, ben, l'empreinte carbone ne va pas être bonne, mais je suis désolé, 5000 moins.
Non, mais moi, je veux dire, faut peut-être la taxer.
J'ai envie de dire à Philippe de revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais Philippe m'écrit matinée bolchevique. J'ai pas l'impression que le plateau que nous sommes soit un plateau bolchevique.
Non, mais c'est parce que c'est Gilles qui avait commencé.
Ah, mais c'est ça, voilà. Reviens.
Non, reviens. Moi, je voudrais quand même nuancer un petit peu ce que vous dites, Nicolas, sur l'hypersensibilité au prix. C'est un fait. On est des homo economicus. Toute la science économique repose là-dessus.
Le slip français,
et
là.
Tous, en tant que producteurs, en tant qu'acheteurs, on a comme élément principal de nos critères de choix le prix. Mais pas que. Parce que permettez-moi de vous dire que s'il y avait que, il n'y aurait pas d'industrie automobile allemande. Il est évident que l'industrie automobile allemande ne prospère pas sur les qualités objectives des véhicules qu'elle produit, mais sur le statut qui s'attache, pour des raisons que je trouve personnellement complètement ridicules, mais il y a des tas de gens qui trouvent ça respectable. Je respecte le goût des autres. Ils trouvent que c'est mieux d'avoir une BM que d'avoir une Peugeot. Moi, ça m'est complètement égal. Je constate simplement que ça fait 50 ans que l'industrie automobile allemande prospère à 95% sur des éléments extra-monétaires,
c'est vrai,
extra-price.
Qualité,
on n'achète pas une BM parce qu'elle n'est pas chère. On achète une BM parce que comme ça on peut dire qu'on a une BM.
Et Amazon,
donc ça veut dire pour reprendre
Amazon.
Ce que disait et Amazon, mais pour reprendre ce que disait à l'instant Guillaume, il est vrai que le prix compte, mais il n'y a pas que le prix. Donc moi je pense que là pour le coup, je ne prétends pas comme Guillaume comprendre et connaître les jeunes gens, mais il me semble malgré tout qu'il y a une évolution.
C'est un tort, mon cher monsieur Bayer.
Guillaume, je ne dis pas que je ne les connais pas, je dis que je ne prétends pas les connaître. Non, j'avoue que je ne les connais pas parce que c'est impossible de connaître les gens qui ont 40 ans de différence ou 20 ans de différence avec vous. Cela dit, on constate aujourd'hui que tout ce qui pouvait exciter les jeunes gens des années, disons, de baby-boom, c'est-à-dire je vais pouvoir accéder au statut, etc. Bon, ça existe encore dans la mode, hein, mais ça n'existe plus vraiment, me semble-t-il, dans la voiture. Et donc, on peut tout à fait imaginer que ce qu'on a vu il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire des gens qui achetaient des voitures sans, d'une manière irrationnelle, juste parce qu'il y avait le logo Bayerische Motorwerke ou le logo, je ne sais pas quoi, Mercedes, bah, ils vont acheter demain, comme le suggère Guillaume, une voiture, je ne sais pas quoi, Stellantis ou Renault, parce qu'on sait qu'elle aura été faite avec de l'énergie bas carbone. Je ne suis personnellement ni pour ni contre. J'ai toujours considéré que les gens faisaient bien ce qu'ils voulaient et que c'était la marque des pays libres. Je dis simplement que l'hypothèse de Guillaume selon laquelle on pourrait capitaliser sur cet avantage comparatif n'est pas une hypothèse absurde, puisqu'on a déjà vu dans le passé la même distorsion absurde du point de vue économicus, mais constaté dans le choix des gens, d'un choix qui ne se portait pas sur les produits les moins chers.
Il faudrait savoir quel est le pourcentage de gens qui achètent avant tout, qui achètent d'abord un prix avant d'acheter un produit. Regardez l'histoire du slip français, ben
On est dans le pays du luxe. Moi, c'est pareil, je trouve ça ridicule d'acheter quelque chose beaucoup plus cher que sa valeur d'usage. Mais c'est mon goût. J'observe que les gens trouvent ça bien. Donc, vous vivez dans un pays qui vit en grande partie de la prospérité d'un secteur qui vous propose tout sauf le prix. Le prix n'est plus un choix, un critère de choix pour, évidemment, les gens
le qui achètent
des
français.
Produits RMH, Hermès, Hermès.
Le prix n'est plus un critère de choix.
Non, je dis pas pour tout le monde. Je dis qu'il y a des gens qui prospèrent sur le fait qu'il y a une clientèle considérable et très solvable qui achète autre chose que le rapport qualité-prix. Voilà ce que je dis.
Bon, Gilles.
Je voudrais quand même rappeler, faire mon petit moment histoire de la pensée.
Bolchevique.
Ouais, voilà, bolchevique, tout ce que vous voulez. Non, mais je voudrais rappeler.
Moi, j'étais semi-bolchevique, là.
Que un point commun des mes chers auteurs Smith, Ricardo, Marx et Keynes, Schumpeter, c'est que l'économie, pardon, c'est de la production. Et que le choix du consommateur est très très secondaire par rapport aux choix que sont faits par les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent le monde, ce sont les entreprises qui proposent des objets, ce sont les entreprises qui structurent l'espace, qui structurent même notre imaginaire. Et pour reprendre l'exemple de l'automobile, oui, Stellantis existe, mais un des drames de notre chère petite France, c'est l'Union européenne. Et là, justement, les chiffres sont sortis. Il y a 10 ans, on avait un excédent commercial de 2 milliards d'euros par an avec les pays d'Europe centrale et orientale. Et maintenant, nous avons un déficit commercial de 10 milliards d'euros par an. Vous serez ravis d'apprendre que les filiales françaises de groupes français sont le troisième employeur de Pologne. Je pense que ça va vous faire très plaisir, effectivement, d'apprendre ça. Et voilà. Et
tant mieux pour les Polonais.
Tant mieux pour les Polonais.
On ne va pas revenir en arrière, mais c'était une connerie d'étendre aussi vite l'Europe. On est tous d'accord là-dessus. Quand j'entends aujourd'hui qu'on veut encore étendre l'Europe.
Ne dis pas qu'on est tous d'accord, parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. Je pense que c'était une nécessité géopolitique et plutôt un bienfait économique.
La France bénéficie
aujourd'hui de ce que la Pologne soit prospère.
On aurait pu faire une union douanière, une union économique, mais aujourd'hui, le problème, le manque d'union politique en Europe, il est criant, il est manifeste. Et c'est un des sujets.
Un autre sujet.
Avec la Chine.
Oui,
là, parce que si tu veux peser avec la Chine, oui. Si tu veux, il faudrait un président, une présidente de l'Union européenne qui soit capable, pour le coup, de décider et de peser. La réalité, c'est que, en fait.
Ça, c'est fantasmatique.
Enfin, ce que je veux dire. On va pas ouvrir le débat sur la puissance.
Non, mais c'est ça. Parce que moi, comme je suis un modeste économiste, ce que je dis à chaque fois que Nicolas Dose a très grande gentillesse de m'inviter, c'est que je ne vois pas, et encore une fois, j'y pense tous les jours, sérieusement, comment la France, avec notre structure de coûts, avec maintenant l'état de nos services publics, peut être compétitive au sein de l'Union européenne. Je ne vois pas. Et je vois des très très bonnes raisons pour lesquelles notre industrie de façon structurelle est en train de s'effondrer. Et justement, je rappelle l'exemple de l'industrie de l'usine BID, Build Your Dreams, à BYD, qui va en Hongrie, où le coût du travail est le tiers de chez nous. Et les Hongrois, ils savent lire comme nous, ils utilisent les mêmes machines que nous, ils sont aussi complexes. Non mais expliquez-moi comment on peut juste arrêter. Oui mais maintenant on arrive à un point absolument critique.
Là où le sud. Comment sur ce sujet, moi je fais partie comme Gilles. Des gens qui ont déploré à de très nombreuses reprises à ce plateau et ailleurs la disparition dans un silence assourdissant d'une grande partie de l'industrie française. Donc oui, l'industrie a des caractéristiques en termes de potentiel de gain de productivité, en termes de capacité à bien rémunérer les gens, en termes d'innovation, etc., qui la rendait plus précieuse que ce qu'on imaginait. On l'a sacrifiée de manière un peu légère. Le phénomène est assez largement derrière nous maintenant, donc on peut essayer de refaire le passé, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que c'est assez largement derrière nous. Cela dit,
toute la politique n'oublions pas que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui,
on l'a déjà beaucoup vécu. Moi, cette histoire de Chinois qui envahissent le monde, les États-Unis et l'Europe occidentale, ça me rappelle quand même furieusement l'histoire des Japonais qui envahissaient le monde. Rappelez-vous, les États-Unis tremblaient. On se demandait s'ils n'allaient pas se faire dépasser par le Japon. On pensait que l'industrie automobile américaine allait mourir sous les coups de boutoir de l'industrie japonaise. Toyota, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Toyota et les Nissan, d'ailleurs comme les BMW et les Mercedes, il n'y a que les Français qui n'ont pas réussi ça, ont exporté puis ont fini par produire aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous avez en Caroline, vous avez dans une grande partie des États-Unis des marques étrangères qui procurent localement de l'emploi, de l'innovation, des emplois à forte valeur ajoutée. Voilà. Donc l'histoire, elle n'est pas terminée et ce renouvellement l'arrivée de nouveaux producteurs sur notre sol. Quand vous dites, par exemple, BYD en Hongrie, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être terrible. Je suis d'accord, dans un premier temps, j'allais dire, c'est flippant, passez-moi l'expression. Oui. Mais à terme, ça va faire quoi? Ça va faire ce qu'on a déjà, c'est-à-dire ça va faire Toyota qui fait des Yaris dans le Nord. Et qui peut pleurer? Qui peut aujourd'hui dire que c'est une mauvaise chose que Toyota fasse des Yaris dans le Nord de la France? C'est évidemment un bienfait pour la France. Donc ne pleurons pas. On a malheureusement besoin de l'investissement de ces gens-là, puisqu'on n'est même pas foutu d'orienter notre épargne dans notre pays.
Vous dites qu'on a besoin de la
vie. Ils ne vont pas venir chez nous, justement.
Bon, c'est un bémol quand même. Un bémol.
Toyota est venu.
Un bémol. Un bémol. Les Chinois viendront pas. Philippe, sur la comparaison. Effectivement, on peut faire
entièrement d'accord.
La comparaison avec l'histoire du Japon il y a quelques années, ça tient intellectuellement la route et même d'ailleurs dans l'examen des faits. Là, on est quand même devant une bascule systémique. On passe du thermique à l'électrique avec une date butoir à 2035 où on ne vend plus un seul moteur thermique en Europe.
Moi, je suis pas sûr que la date butoir on la révise pas.
Moi non plus. Mais devant une bascule,
la bouffonnerie a fini par être un tout petit peu éventé.
Mais devant une bascule systémique comme celle-là, compte tenu de l'avance incroyable des Chinois en matière de voitures électriques,
c'est une avance.
BYD, c'est une boîte qui a 20 ans.
C'est une avance, mais c'est une avance qui, à mon avis, n'est pas... Alors, je ne suis pas du tout un technicien, mais ce que je comprends, pour en avoir parlé avec un certain nombre de personnes, et je pense que ça ressortit aussi au bon sens, c'est pas une avance qui est aussi difficile à rattraper que, par exemple, sur l'automobile thermique d'avant. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, une voiture électrique, c'est assez simple en termes de conception. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pièces. Le différentiel que vous pouvez obtenir par un moteur d'une hyper qualité qui est roulé sous les selles en Bavière profonde ou sur les côtes japonaises, il est aboli par l'électrique. L'électrique, vous avez un couple énorme, vous appuyez sur le truc, ça avance. Enfin, je veux dire, la voiture électrique, c'est pas rocket science, si je peux me permettre.
Non, mais je suis d'accord.
Donc, je pense que c'est plus dur pour les incumbents, passez-moi cet anglicisme, pour les gens qui avaient une très grosse industrie dans l'ancienne technologie, tous les constructeurs automobiles du monde, donc les Français en particulier, c'est plus dur de basculer dans quelque chose de nouveau, ça c'est bien établi, c'est pas les marchands de calèches qui ont fait des voitures. Mais en même temps, quand on veut passer dans l'électrique, oui, il y a beaucoup d'investissements à faire, mais il n'y a pas de barrière technologique insurmontable. Donc moi je pense que ce que fait BYD, les Stellantis et les Renault sont évidemment infiniment capables de le faire. Le problème c'est, est-ce qu'on a raison de leur demander de le faire à coup de fouet à la vitesse de l'éclair? Ça se discute à mon avis. Mais je crois pas que les Chinois viennent avec une technologie de la mort qui tue qui va nous mettre au tapis, parce que c'est une technologie, j'allais dire, dans le fond assez banale.
La Cour des comptes européenne a considéré qu'il est faut peut-être se poser la question de la date de 2035 pour savoir si c'est... Bon, il y a une clause de revoyure, je crois, sur cette date.
Rappelez-vous ce que disait Tavares dès le départ. Hein, oui. Il avait raison.
Oui, mais vous avez vu ce qu'a dit Luca de Meo. Je pensais comme Carlos Tavares, mais maintenant qu'on nous a envoyé en 2035, on ne nous change pas le cap, quoi. Parce que aucun de vous n'a prononcé le mot droit de douane parmi les solutions. Hein.
On n'a pas la maîtrise des droits de douane, on est dans l'Union européenne.
Je pense que d'abord, on est dans l'Union européenne, on a des accords commerciaux, et puis après, je pense pas que ce soit le repli sur soi que soit la solution.
Non.
Il faut honnêtement, très honnêtement, taxer les produits qui sont issus du charbon. Jean Covici l'a encore dit l'autre jour dans le truc. Un produit produit en Chine est un produit toxique pour la planète parce qu'il est issu d'énergies qui sont issues largement du charbon. Donc nous, on a encore cet avantage compétitif aujourd'hui et c'est ça qu'il faut faire valoir. Et donc, il faut, en effet, une taxe sur le carbone ajouté sur chaque produit. C'est urgent. C'est urgent, c'est nécessaire, ça va réindustrialiser la France.
C'est juste infaisable.
Comment ça?
Comment on taxe le charbon des Chinois? Vous pouvez m'expliquer?
Mais on taxe, c'est tout ça, c'est assez simple. Et on taxe l'empreinte carbone du véhicule une fois qu'il passe
la
frontière.
Mais comment vous la connaissez?
Et on la connaît parce qu'on connaît le mix énergétique.
Comment vous obtenez l'assentiment de nos partenaires commerciaux? Là, pour le coup, moi, je suis ni pour ni contre le cognac. Ça me paraît parfaitement du second ordre. Mais si vous commencez
aujourd'hui,
à taxer les voitures sur le charbon,
nous avons une taxe carbone aux frontières. Elle existe. Aux frontières de l'Europe, elle existe, d'accord.
On a mis en place.
Elle rapporte rien d'ailleurs, puisqu'elle est en période de test.
Oui, la contribution d'ajustement.
Mais cette taxe, alors, elle n'est hélas que sur les matières premières, elle est partielle, etc.
Elle n'est pas sur les produits finis.
Mais on peut la mettre demain sur les produits finis, il n'y a aucun problème.
Mais vous voyez bien qu'on va rentrer dans un truc de corne-cul. Typiquement, si j'étais BYD, votre taxe, elle existe. Je suis BYD, je m'installe à côté d'une centrale nucléaire en Chine, et je dis, moi, je n'ai pas le mix chinois, je prends directement du non carboné.
Pourquoi pas?
Donc vous allez avoir, moi je pense qu'en termes d'exécution,
pourquoi pas, mais au moins, cet énorme drame qui fait que 40% de nos émissions aujourd'hui c'est le charbon, 40%, vous vous rendez compte? On arrête le charbon, on arrête quasiment le drame du réchauffement climatique, donc on n'a plus besoin d'aller dire, etc. Bonjour, vous allez vous surprotéger du froid, vous allez faire ceci, la prime Rénov, tout ce que ça nous coûte aujourd'hui le réchauffement climatique.
Arrête le charbon, ça serait la solution. Bien sûr.
On arrête le charbon.
Gilles, possible. On a 1:07 et on marque une pause.
Je suis de très mauvaise humeur ce matin, je me permets.
De très 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 mauvaise humeur ce matin.
Voilà, exactement. En plus, Paris est plein de Parisiens et c'est insupportable.
Non, il n'y a plus personne.
Il y a surtout des Chinois pour le moment.
Bon, allez. Monsieur Manière, je pense que votre temps de parole est écoulé, si je peux me permettre de faire mon petit Alain Duhamel. Conseil de lecture.
Oui.
Un des livres qui va changer votre vision du monde. Jean-Baptiste Fressoze, Sans transition. Historien des sciences, des techniques et du travail, qui vous raconte deux siècles d'innovation technologique et qui vous montre qu'il n'y a jamais eu de transition dans l'histoire de l'humanité, que les sources d'énergie, les matières premières se sont toujours ajoutées les unes aux autres, qu'il y a des symbioses, il y a des chapitres extraordinaires où il vous montre que pendant la révolution industrielle, on a tous appris comme étudiants, et j'ai tous enseigné comme enseignant, que la révolution industrielle, c'est le charbon remplace le bois. Et bien il dit, c'est exactement l'inverse. On se tait, monsieur Manière, merci beaucoup. Le développement des mines de charbon nécessite, il nous dit, au début des mines de charbon, on voyait ça avec des quantités de bois à l'extérieur pour étayer, etc. C'est absolument passionnant. Il y a de l'histoire sociale, il y a de l'histoire du travail, l'histoire des techniques. Lisez Jean-Baptiste Fressoze, Sans transition. Et comme ça, vous pourrez manger de la bidoche et prendre l'avion sans aucune culpabilité parce que vous comprendrez les raisons profondes pour lesquelles l'effondrement est absolument inévitable.
J'ai lu Éric Coquerel.
Heureusement qu'il est évitable, l'effondrement.
J'ai lu Éric Coquerel dans les colonnes des Échos. Il veut qu'on monte les impôts. Il veut que la France se finance non plus sur les marchés mais auprès de la BCE et qu'on nationalise Total Energy si l'entreprise confirme sa volonté de s'implanter à Wall Street.
C'est lunaire.
C'est dans les Échos. Allez, à tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Quelque chose trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Et avec aujourd'hui Philippe Manière, le président de Veille-Solis Communication, Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, auteur de Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action,
chez Stock. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, auteur de Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Et puis Philippe est l'auteur du Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est le slip français qui a fait réagir sur mon Twitter.
On n'en a pas parlé, c'est ça qui les intéresse, c'est pas
mais
toi,
non, mais je te dis, le jour où il y aura l'article du Parisien, les Chinois ont tué le slip français. Oh, émotion. Bon. Et voilà. Le problème, c'est qu'ils divisent leur prix par deux parce qu'ils sont en train de...
Alors voilà, justement, ils divisent leur prix par deux, oui. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la demande pour le slip français est élastique au prix?
Ça, c'est très fort.
Mais c'est vrai.
Je l'attendais.
C'est ça la question.
Il a raison.
Je l'attendais, elle est très forte. Ceci dit, moi, j'invite tous les auditeurs de BFM à se jeter sur leur portable pour acheter...
BFM Business.
Business.
Du slip français.
Mais tous aussi.
Ouais, ouais, tout à fait.
D'acheter du slip français, parce que c'est une aventure formidable, c'est de grande qualité. Moi, j'en ai, mais on a du mal à les trouver. Et j'ai essayé d'en acheter sur Amazon à l'instant, pendant la pause, et j'ai pas réussi. Donc, je lance un appel aussi au patron du slip français. Il faut qu'il soit, quand qu'il annonce qu'il baisse ses prix par deux, il faut qu'il soit en première page d'Amazon, au moins sur la recherche slip français, si ce n'est slip, mais au moins slip français. Je pense qu'il peut s'acheter ça.
Vous réagissiez avant même que j'ai terminé, Philippe Manier. Éric Coquerel est président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Il s'exprime dans les Échos. Il faut... Alors, hier, on avait le débat. Il y avait Gilles Berset, il y avait Xavier Timbaud et je ne sais plus qui était là hier encore. Et Léonidas Kalogeropoulos. J'en ai quelques-unes quand même, des femmes. Pas assez, c'est vrai. Mais... Donc, bref, on a eu le débat. Est-ce que... notre enjeu de finances publiques se fera avec de la baisse de dépenses ou de la hausse d'impôts. Et là, ben, pour Éric Coquerel, c'est clair, on taxe les rachats d'actions, on taxe les superdividendes, on remet en place l'exit tax, on augmente la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique ramené enfin à 30% en 2017, et puis bien sûr, l'éternel crédit d'impôt recherche, la cible.
Non mais bon, on ne sait plus quoi dire, c'est-à-dire que il y a quelques points techniques, on va y revenir, mais pour l'essentiel, c'est le retour des vieilles lunes. Par exemple, la nationalisation de Total. Enfin,
ah, ça, c'est un autre point.
C'est
encore
un truc lunaire. Au passage, avec quel argent
Total, il faut 160 milliards.
Non, mais bon. Donc, on est dans le n'importe quoi intégral. Alors, si on prend le sujet fiscal spécifiquement, quand même important, la France est un des pays, pour ne pas dire le pays, qui taxe le plus au monde. On devrait être extrêmement prospère si c'était ça la recette. On est par ailleurs celui qui dépense le plus au monde. Oui. Donc si c'était une réponse satisfaisante, on devrait avoir un taux de chômage à peu près nul, prospérité générale, les gens qui chantent nus en sautant dans les rues avec une marguerite entre les dents. Donc c'est pas tout à fait le cas, ce qui montre bien qu'on a potentiellement pas trouvé le bon mix avec des dépenses très élevées et une fiscalité très élevée. C'est juste l'observation. Donc quelqu'un qui vient en vous disant j'ai bien réfléchi et en regardant ça, c'est un pays où on taxe beaucoup et on dépense beaucoup, je pense que la solution, ça serait surtout pas de réduire les dépenses, mais plutôt d'augmenter les impôts. Je sais pas, pardonnez-moi, mais en première année, j'ai envie de dire, faut qu'ils consultent. Ça n'a absolument aucun sens. C'est absurde.
Le sens politique, c'est taxer les riches. C'est effacer le macronisme et taxer les riches.
Je vois bien le sens politique.
Terminé, Philippe.
Sur les rachats d'actions, c'est un truc extrêmement drôle, parce que précisément, vous avez dit, en France, il y a le prélèvement forfaitaire unique. Moi, c'est un des rares trucs que je mets à l'actif d'Emmanuel Macron. Non seulement parce que ça a permis de baisser un impôt qui était incroyablement trop élevé sous Hollande, mais aussi parce que ça a homogénéisé la taxation de toutes sortes de revenus, en particulier entre revenus du capital classique, sous forme d'intérêts ou de dividendes, et plus-value. C'est le même taux de taxation. Donc, c'est-à-dire que les rachats d'actions, ils sont taxés de la même manière en France. Pourquoi il y a des rachats d'actions aux États-Unis? Pourquoi ça prospère? Parce qu'il y a une différence de taxation. Donc, il vaut mieux pour l'actionnaire qu'on vous rachète vos actions plutôt que de recevoir du dividende. En France, c'est kiff-kiff. Donc, ça n'a pas d'importance. Et surtout, on va pas épiloguer là-dessus maintenant, mais ce serait trop long, mais... Enfin, cette démonisation du rachat d'actions témoigne d'une absolue incompréhension du mécanisme de fonctionnement de la rémunération de l'actionnaire. Ça n'a pas d'importance qu'on rachète des actions ou pas, parce que sinon on verserait du dividende. Ça n'a pas d'impact sur l'investissement, parce qu'il est fait bien en amont du calcul du bénéfice distribuable. Ça n'a pas de bénéfice pour le bénéficiaire, parce que pour le bénéficiaire qui touche du rachat d'actions ou du dividende, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de différence. Et pour finir, je voudrais dire un truc, parce que 90% que je rencontre ne le savent pas. Payer un dividende à quelqu'un, ça ne l'enrichit pas un instant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, le jour où il y a un détachement de coupons sur n'importe quel titre en bourse, bah, mécaniquement, le titre, le lendemain, il vaut ce qui valait la veille, moins la valeur du dividende. Donc il faut se sortir de la tête, mais personne ne le sait ou
pas. Oui, mais il faut rappeler, mais moi je le dis souvent de manière un peu caricaturale, l'action vaut 100, je donne 2 de dividende, l'action vaut 98.
Dans la seconde, donc pourquoi considérer que le dividende est un enrichissement de quiconque? Je n'ai jamais compris.
Parce que cette idée s'est installée.
Bon, donc il faut se sortir de la tête, c'est du bullshit, c'est pas pas là qu'est la solution. Tout ce qu'on vous raconte sur le sujet est absurde et c'est en passage très bon pour le marché que de temps en temps quelqu'un qui n'a plus besoin de capital le restitue au marché pour que quelqu'un qui en a besoin l'y trouve.
Okay. Moi j'ai fait maigrir, j'ai fait un énorme rachat d'actions quand j'étais patron d'Unibail. Et j'ai fait maigrir.
Pour quelle raison vous le faites alors?
J'avais fait parce qu'on avait vendu Cœur Défense, qui était à Lehman Brothers, juste avant la faillite de Lehman Brothers.
Immeuble, et on s'est retrouvé. Immeuble colossal au cœur de la défense.
On s'est retrouvé avec 1 milliard de liquidités. Et donc, j'ai redonné, à travers du rachat d'actions, à travers aussi un dividende spécial, j'ai redonné beaucoup de capital à mes actionnaires. Et donc, j'ai fait maigrir la boîte. J'ai fait maigrir la boîte. Et je vois pas où est le péché.
Non, il y en a pas.
Cet argent, mes actionnaires, qu'est-ce qu'ils ont été faire avec? Ils ont racheté frais immobiliers, ils ont racheté du Altarea, ils ont racheté des concurrents. Tant mieux, les concurrents ont fait des augmentations de capital qui leur ont permis d'aller. Moi, j'avais juste estimé qu'on était trop gros. Il y avait trop d'argent, en
trop
fait, dans la boîte. Eh bien, ça, aujourd'hui, par les politiques français de droite et de gauche, c'est considéré comme un gros mot. C'est le dividende, le rachat d'actions, le dividende spécial, etc., c'est considéré comme un grand mot. Mais c'est juste rendre de l'argent qui appartient, et là, Philippe Manière a tout à fait raison, qui appartient aux actionnaires, leur rendre aux actionnaires. Mais franchement, où est le problème? Où est le crime derrière ce truc-là? Et moi, je ne comprends pas. Alors là, on dit que c'est un immense péché. Je pense que c'est beaucoup d'ignorance des mécanismes de base de l'économie et de la finance.
Gilles, bravo, baisser les dépenses, monter les prélèvements, on avait le débat hier.
Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que Éric Coquerel, il est interviewé en tant que président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, que c'est une très bonne chose dans la démocratie que, traditionnellement, les présidents de commission de finances appartiennent à l'opposition. Je rappellerai que si on était dans une démocratie un tout petit peu saine, il y aurait un projet de loi de finances rectificatif. Et donc voilà, je voulais quand même rappeler ça, parce que le budget 2024 va être très très faux.
C'est très juste.
Et donc là, il y a un problème démocratique qui n'est pas du tout secondaire.
Indiscutable.
C'est tout à fait intéressant aussi de noter que, là aussi sur le plan effectivement strictement politique, il avance un certain nombre de propositions en disant qu'il y a des majorités pour certaines. Il propose, moi je trouve que sur le plan procédural, ce qu'il propose en disant après l'élection du Parlement européen, de faire une espèce de convention, de mettre les discussions, de voir, etc., et de voir s'il y a des majorités sujet par sujet au niveau, c'est totalement sain dans une démocratie. Donc ça, je souhaiterais, j'y crois pas une seconde, mais je souhaiterais que Emmanuel Macron et le gouvernement aient l'intelligence de respecter un minimum le Parlement, parce que on pleure beaucoup sur le vote, l'extrême droite, l'effondrement de la démocratie, mais enfin il y a quand même des choses de base qui sont pas faites dans ce pays. Emmanuel Macron est comme les autres, de ce point de vue là il y a aucune différence, mais ça devient de moins en moins drôle. Et par contre donc j'ai commencé en disant que notre industrie allait mourir. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait tous mourir avec l'effondrement écologique pour des raisons très profondes. Et maintenant, je voudrais rappeler que Emmanuel Macron va nous laisser une ardoise budgétaire absolument hallucinante et qui fait que, rien que sur ce plan-là, on est condamné à des choses extrêmement compliquées. Et là aussi, j'alerte là-dessus depuis des années, contre mes amis de gauche, pour qui la dette, c'est pas grave. Si, c'est très grave. On est dans un monde à très faible croissance. Les taux d'intérêt les taux d'intérêt réels sont redevenus positifs puisque la Banque Centrale Européenne va les baisser très très lentement et donc on va avoir un effet boule de neige sur la dette qui est évident. On n'a pas de croissance parce qu'on n'a pas d'industrie. On a une population hyper vieillissante, on a des frais de santé qui explosent. Enfin, le rapport entre la base productive du pays et les dépenses sociales devient complètement fou. Enfin, je veux dire, on est dans une situation complètement folle en France.
Nicolas.
Et je rappelle quand même que, et je le regrette très fortement, parce qu'il y a eu un seul programme économique d'Emmanuel Macron, c'est celui de 2017. C'est effectivement la forte baisse de la fiscalité, c'est la Startup Nation, et le fait est que ça n'a pas marché. Là, on est aujourd'hui, on célèbre la fin du premier septennat d'Emmanuel Macron, et les résultats ne sont pas du tout là. Et donc, effectivement, on a d'un côté des énormes pertes de recettes fiscales, sur cumulé, on parle de centaines de milliards, et la réindustrialisation n'a pas lieu, l'innovation n'est pas là, et le plus grand échec d'Emmanuel Macron, et encore une fois, j'aurais vraiment préféré que ça ne soit pas le cas, qui est caché par l'euro, c'est le déficit commercial. C'est-à-dire que la France s'effondre dans les parts de marché au niveau mondial, au niveau européen. Il n'y a absolument plus rien qui va dans notre pays et je vous épargne le couplet habituel.
Il n'y a rien qui va et en plus, Gilles nous dit j'ai pas de solution. Alors, j'ai un auditeur qui dit allez plutôt sur laredoute.fr que chez un Américain pour acheter le slip français.
Eh ben, on ira sur laredoute.fr. On ira sur laredoute.fr pour acheter le slip français.
La redoute sauve la France.
Toutes ces mesures, l'ambition de M. Coquerel, c'est d'aller gagner 16 milliards de plus de prélèvements. Donc en fait, on revient en arrière, hein, on arrête la flat tax, on refait tout ça, etc. Je pense, j'imagine que là-dedans,
non, il augmente l'ISF. Il dit pas on, ISF. Là.
Non, il a pas l'ISF, non, il a raté, mais en général, ça va venir, parce que c'est quand même ça vient avec. 16 milliards d'euros. Le déficit de l'État français, c'est 170 milliards d'euros. Mmh. 170 milliards d'euros. Le déficit de l'État français, par France, par ménage français, c'est 5 000 euros par an. 5 000 euros empruntés aux générations suivantes. 5 000 euros par ménage français par an empruntés aux générations suivantes. La réalité, c'est qu'en fait, nous dépensons trop d'argent public.
Bien sûr.
C'est une réalité qui est évidente, elle est connue. Nous avons, et nous le finançons à travers un déficit qui est abyssal, qui n'est pas le record parce qu'il y a toujours les États-Unis, je suis d'accord, mais les États-Unis, ils ont de la croissance pour, pour payer leur déficit. Nous, on n'a plus de croissance. Et là, suis d'accord avec. Et avec un record de prélèvement obligatoire à 48%, qui est juste 15% au-dessus de la moyenne de la zone euro. Ouais. Donc, nous sommes les recordman de l'impôt dans la zone euro. Il se trouve encore des femmes et des hommes politiques pour dire il faut plus d'impôts. Mmh. Mais on s'arrêtera où? On s'arrêtera où?
Ce qui me frappe, évidemment, ce qui va évidemment se passer, c'est qu'il va y avoir des hausses d'impôts. Et je vous rappelle que le gouvernement, on en a déjà parlé ici, a déjà décidé des hausses d'impôts, puisque les baisses de remboursement sur la santé, c'est une hausse de la fiscalité. Donc en fait, on peut crier tout ce qu'on veut, pouvez-vous moquer de la gauche, etc. Ça me va très bien, mais le fait est que le gouvernement lui-même
pas de la gauche,
va évidemment, d'une façon plus ou moins cachée,
c'est clair, ça a commencé,
augmenter les impôts. Et moi, je suis, ce qui me rend très triste, c'est de dire... Le décennat d'Emmanuel Macron a commencé par la fiscalité. Toutes ses premières mesures, c'était que de la fiscalité, ISF, la taxe. Et là, on va encore parler que fiscalité pendant 2 ans, qui n'est pas, je suis désolé, le premier problème du pays. Le premier problème du pays, c'est encore une fois les services publics et la base productive.
Et la formation.
Et au bout de 10 ans, on n'aura pas avancé sur la transition écologique, nos services publics continueront à s'effondrer. Enfin, le bilan est catastrophique. Bon. Catastrophique.
On aura relancé le nucléaire.
Je suis pas sûr. C'est déjà pas mal, hein.
Même pas sûr.
Ce qui n'était pas gagné.
Monsieur Manier. C'est pas si simple.
Si, mais on ne peut pas mettre au crédit la relance tardive du nucléaire sans mettre au débit les 2 ou 3 ou 4 premières années pendant lesquelles on continue à fermer
et à fermer
l'horizon à l'industrie nucléaire. Donc, c'est une sorte de petite miséricorde finale à un très gros péché originel.
C'est dû en même temps, mais en temps successif, en fait.
J'ai quand même un peu de mal à. Bon, la vision que vous avez est ultra négative, mais.
Moi, je suis d'accord avec Gilles, hein, ouais, y a pas grand chose qui va, faut être honnête. Hein.
J'ai quand même le sentiment que 10 ans de politique de l'offre depuis le CICE, ça a quand même produit des résultats pas mauvais.
Oui, un peu.
J'ai le sentiment qu'on a encore des atouts. On a encore la meilleure matière grise du monde.
Pas du tout.
Et
je parle pas de pizza, je parle des esprits les plus brillants sont les esprits français qui sortent des grandes écoles.
Ils sont pas en France.
On les retrouve partout dans le monde.
Voilà. Ils sont pas en France.
Allez voir comment s'appelle celui qui s'occupe de l'intelligence artificielle de Google aujourd'hui ou de Facebook.
On l'a vu avec les vaccins.
On l'a vu avec les vaccins.
On l'a bien vu avec les vaccins.
Bon.
Et les prix Nobel, les derniers prix Nobel français, c'est tous des gens qui sont à l'étranger.
Monsieur,
physique, chimie.
Hier, j'avais un invité, Gilles Bercette, qui disait il est venu le moment de remonter la TVA dans la restauration.
Mais il a raison,
Et de commencer à faire payer un peu les retraités. Les retraités bénéficient de l'abattement pour frais professionnels de 10%.
Moi, je pense que monter le niveau global de la pression fiscale en France, pour toutes les raisons qu'on a dites depuis une demi-heure, c'est absurdissime. En revanche, il y a un certain nombre de niches fiscales en France qui sont intellectuellement indéfendables, qui sont créatrices de distorsions et d'inégalités. Alors, j'ai déjà ici, je ne vais pas recommencer, fait un certain nombre de couplets pour dire qu'il fallait absolument taxer la plus-value de cession sur la résidence principale. Cette exonération me paraît une absolue folie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est une prime aux gens qui ont eu la chance d'avoir de l'argent que leur donnaient leurs parents. Je ne vais pas élaborer.
Et puis l'amortissement. Alors, Philippe Manier, il oublie toujours aussi une deuxième aberration, c'est l'amortissement. Pas de la résidence principale, puisqu'elle est. Mais l'amortissement de la résidence secondaire. On vous dit surtout garder 35 ans votre résidence secondaire si vous voulez payer zéro impôt à la sortie.
Prime à l'immobilité.
Tout ça, c'est des gaudrioles. L'exonération, effectivement, les 10% donnés aux salariés, aux retraités pour frais professionnels. Mais que l'oxymore n'a même pas fait hurler de rire tout l'hémicycle le jour où ce machin-là est passé devant les députés et quand même donne à penser, quoi. C'est insensé, c'est indéfendable, et effectivement pas viser la restauration plus que d'autres, mais enfin, il y a des TVA réduites, il y a des TVA spécifiques qui visent des secteurs qui n'en ont nul besoin parce qu'ils sont non délocalisables, parce qu'ils peuvent tout à fait... ils ont d'ailleurs des taux de marge qui sont en moyenne assez élevés, donc je ne vois pas de bien fondé à cette dérogation. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait mettre à plat et qui seraient effectivement productrices d'un peu de recettes fiscales.
Oui, et dans
mais
le même
moi,
temps...
Parce moi, que... pardon, enfin, je finis juste, ouais, Guillaume. Ouais. En face de ça, je mettrais une baisse du taux général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas boucher les trous sans... parce qu'il faut s'interdire d'augmenter les prélèvements fiscaux au total dans un pays qui en est déjà le recordman.
Exactement. C'est-à-dire, en fait, on veut tous, et tout le monde veut, une assiette la plus large possible et des taux comestibles. Mais là, par exemple, on va parler d'immobilier, puisque vous voulez me lancer sur monsieur Casamarion.
Oui, je vais vous lancer.
C'est une excellente illustration de nos propos.
Cet auditeur me dit, oui, effectivement, la baisse du remboursement de santé est une hausse d'impôt. Bon, d'ailleurs, elle est entrée en vigueur le 1er avril. On est passé demain à 2 euros de reste à charge sur le Toubib.
Non, mais c'est pas vraiment une hausse d'impôt. Ça veut dire que les Français vont payer un peu pour leur santé. C'est peut-être pas plus mal. La santé totalement gratuite, c'est pas non plus la solution.
Là où j'ai la raison, c'est que quand l'État te prend du pognon ou quand il t'en redonne moins, à la fin, l'effet est un peu le même.
Oui, d'accord, mais c'est pas des impôts, c'est pas des prélèvements obligatoires.
Oui, mais j'ai eu ce débat avec Gabriel Attal la dernière fois. Oui, ce ne sont pas des prélèvements obligatoires.
Je suis désolé.
Bon, allez-y.
Pourquoi l'immobilier ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans le même temps, qu'en effet, on est en paradis fiscal sur sa résidence principale, on est en enfer fiscal quand on devient bailleur. Et là, vous allez me parler évidemment des mesures de la loi Casparian. Les mesures de la loi Casparian,
il fait
un
les transitions
bon
tout seul, et formidable.
Oui, mais Léonidas,
je vois que l'heure tourne.
Hier, Léonidas était là. Il voulait absolument parler du statut des auto-entrepreneurs pendant les JO. Il a vu qu'il restait 6 minutes 14. Il a pris la parole tout seul.
Bon, en fait, l'enfer fiscal du bailleur, il faut quand même en parler 2 minutes, puisque M. Casparian fait le bon constat. Il dit il y a un problème d'offre, il y a un problème de production. Et donc, il y a un problème, tout simplement, de montant de capitaux aussi, et surtout en ce moment, on a une crise du capital, on a une crise de l'investissement sur ce marché, et donc nous avons des baisses de production de logements qui sont dramatiques et qui vont poser un problème social absolument dramatique d'ici quelques années, puisque les jeunes ne peuvent plus se loger. Et on pourrait regarder le système en disant d'un côté paradis fiscal pour le propriétaire souvent retraité d'ailleurs dans le truc qui va vendre son truc, et de l'autre côté enfer fiscal pour celui qui, au lieu de mettre de l'argent dans cette autre niche fiscale qu'on appelle l'assurance vie, choisit de mettre un petit peu d'argent dans des studios pour louer pour des étudiants et qui se retrouve avec le cumul de l'impôt sur le revenu, le cumul des taxes locales, avec un encadrement des loyers derrière pour lui diminuer le truc, et puis s'il a vraiment pas de chance, un IFI, quand on cumule l'impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui ont la chance de le payer avec l'impôt sur le revenu, nous sommes le seul pays où le rendement net de l'immobilier locatif est négatif.
C'est dingue.
Est négatif.
Et après, on s'étonne que ça construise pas.
Et comment est-ce qu'on peut s'étonner qu'on construise pas alors que le rendement locatif net après tous ces impôts est négatif pour l'investisseur? Donc il y a un vrai problème. Il faut ramener de l'argent très très vite sur la construction. Il faut simplifier les normes. Il a raison, Monsieur Casparian. Il a raison de s'attaquer aux recours abusifs, parce que évidemment tous les permis, et c'est le sport national, les permis sont attaqués et les gens gagnent de l'argent à raison de faire perdre du temps. Très souvent, encore l'autre jour, hier, pas plus tard qu'hier, un grand groupe du CAC 40 qui regarde un de mes permis de construire. Parce qu'on est quelque part dans une zone un peu dense. Et l'avocat de ce grand groupe du CAC 40 dit, vous avez de la chance, finalement, on va pas faire de recours. Je lui dis, c'est quand même la moindre des choses, puisqu'on améliore, en fait, votre paysage et on n'accroît pas la volumétrie du bâtiment qui est en face du vôtre. C'est quand même la moindre des choses. Mais ce même avocat de cette boîte du CAC 40 dit, mais néanmoins, votre permis est parfait, je l'ai étudié. Mais on pourrait quand même vous bloquer 5 ans si on voulait. Oui. Donc c'est vraiment
chantage,
très gentil.
C'est du chantage assumé.
C'est du chantage. Donc il faut arrêter ce chantage.
La loi Casparian, elle apporte des réponses à tout ce que vous soulignez.
Elle apporte quelques réponses. Elle ne va pas assez loin. Et notamment sur un thème que j'aime, qui m'est cher, c'est la vraie simplification administrative. Aujourd'hui, ce qui nous ralentit dans l'acte de construire, évidemment les recours, mais aussi la complexité administrative. du PLU, qui, je le rappelle, n'est plus dans la main du maire. Donc il faut aller voir monsieur le maire pour obtenir le permis de construire. Mais quand on veut bouger le PLU, là, parce qu'il y a une petite modif, on n'a plus besoin de bureaux, il faudrait mettre du logement, c'est ça qui aurait du sens, il faut aller voir l'intercommunalité en priant et en mettant des cierges à Notre-Dame, ça rouvre en décembre, en mettant des cierges pour être sûr que le patron de l'intercommunalité n'est pas l'ennemi juré du maire, parce que sinon, modification de PLU, vous allez pouvoir l'attendre pendant 5 ans.
Ce qui est assez classique d'ailleurs, cette détestation entre les deux.
Y a un problème de démultiplication des autorités. Tout le monde s'occupe d'urbanisme dans ce pays. Tout le monde s'occupe d'enquête faune et flore, l'autorité environnementale, les quatre saisons. On a accumulé les contraintes administratives sur cette production et après on s'étonne qu'en fait cette production, tout simplement, elle est morte. C'est la collectivisation de l'immobilier qui fait qu'il n'y a plus de production. Nous avons collectivisé l'immobilier, il est surréglementé, le locataire est surprotégé, il est surimposé et la production met beaucoup de temps pour arriver. Et voilà comment on arrive à un déséquilibre. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait en encadrant les loyers, qui est une des réponses, ou alors en créant du logement social, qui est une autre réponse? On est en train de colmater, c'est la jambe de bois, mais qu'est-ce qu'on fait? On crée des inégalités, on crée des injustices, parce qu'il y a ceux qui ont la chance d'être avec un loyer encadré, puis il y a tous ceux qui sont à la porte et qui, eux, vont aller dans du Airbnb, qui, eux, vont aller dans du co-logement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a ceux qui ont la chance.
C'est l'une des mesures fortes de la loi Casbarian, justement.
Un petit peu bouger tout ça. Bon. Il a raison, Casbarian. Bon.
Donc, cette loi, c'est des éléments que vous saluez.
Toute l'hyper-réglementation, ça vient d'être évoqué de manière tout à fait éloquente par Guillaume, donc je ne vais pas y revenir. Je pense que c'est des sujets aussi, pardon de le dire, parce que ça va de soi quand on connaît le sujet, mais ça ne va pas de soi pour beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de paradoxes sur ce type de marché. En particulier, Guillaume vient de faire allusion au problème du blocage, de la surprotection des locataires. Il y a une étude que je vous recommande de lire, qui doit maintenant valoir une quinzaine d'années, qui a été faite par Étienne Vasmer, qui est un économiste parfaitement respectable.
Il travaille actuellement sur la désmicardisation.
Absolument, et qui n'est pas un ultralibéral échevelé. Hein, et qui avait fait, si je me rappelle bien, chez En Temps Réel, peu importe, il avait fait un travail qui était super intéressant, qui consistait à analyser une réforme qui avait été faite au Québec, le Québec qui est traditionnellement à peu près aussi socialisé, hyper fiscalisateur que la France. Hein. Et au Québec, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un problème de logement, d'accès au logement, et ils ont, du jour au lendemain, levé toutes les protections du locataire avec une autre protection qui est venue en substitution, qui est assez simple. C'est-à-dire si le locataire ne paie pas, il y a ce qu'on appelle la régie, si je me rappelle bien, qui réunit le locataire et le bailleur et ils se mettent d'accord. Ils ont 3 mois pour trouver une solution d'étalement, de suspension, etc. Et si la régie n'arrive pas à les mettre d'accord, à la fin des 3 mois, le locataire est expulsable et expulsé. Parce qu'en France, il est expulsé. Quand il est expulsable, il n'est pas expulsé. Le concours de la force publique n'est quasiment jamais accordé à un bailleur qui demande l'exécution d'un jugement.
C'était le combat de Casbarian lorsqu'il était député.
Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le résultat, c'est quoi? C'est qu'au Canada, enfin au Québec, 6 mois plus tard, il n'y a plus de problème de logement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le croire, parce qu'on veut tous protéger le faible. Et objectivement, sur un marché du type logement, entre le bailleur et le locataire, c'est le locataire qui apparaît comme étant la personne faible. Mais si vous le surprotégez, alors tout simplement, vous n'avez plus d'offre.
Donc en Argentine, aujourd'hui, c'est ce qui se passe.
Oui, Javier
Milei. Robert Ribaton l'a dit ce matin, qui est quelqu'un de modéré. La libéralisation, aujourd'hui, Argentine, qui fait qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est assez simple. En fait, d'abord, on baisse un peu les impôts, d'accord? Donc ça va donner envie aux gens de louer, et après ils ont dit vous pouvez louer, il n'y a plus de réglementation sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 10 ans, sur 100 ans, il n'y a pas de problème, vous signez ce que vous voulez. Et tout d'un coup, l'offre est arrivée et les loyers baissent. Il a supprimé l'encadrement des loyers, le président argentin, les loyers baissent.
Et donc à l'arrivée, on a fait le bien du locataire en faisant sauter les protections légales qu'on lui avait accordées, mais qui étaient contre-productives.
Que l'offre arrive, voilà. C'est l'offre qui doit arriver.
Javier Milei, il a une bonne solution face aux dépenses publiques.
Non mais
vous avez vu,
il a des qualités. Hein.
Oui, alors il y a certains Argentins, j'aimerais pas être à leur place. Hein.
Moi, je suis pas fan de l'idée de parler à son chien mort. Mais pour le reste, j'ai assez peu de réserves sur la politique qu'il met en œuvre.
Ouais,
là où je suis assez d'accord avec Philippe, c'est que je pense vraiment que le fascisme est l'avenir et qu'on va avoir la chance de le vivre bientôt en France.
Je parle de la politique économique et puis je sais pas si on peut le qualifier de fasciste.
Je pense vraiment.
Il y a des choses effectivement qui, par lui ou par d'autres, ont été mises en œuvre et qui fonctionnent et qui sont contre-intuitives. c'est on libéralise et tout à coup ça marche.
Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est les comparaisons internationales. En général, vous dites n'importe quoi parce que vous comparez deux pays et vous connaissez mal les deux pays. Voilà, moi c'est ça que je vous dis.
Gars, il y a des. Si tu coupes à la serpe dans les dépenses publiques, tu as effectivement un effet rapide.
Mais très rapide.
Alors moi, je peux te prendre la solution grecque. C'est deux points de TVA. Ouais. Tu baisses les pensions de retraite, tu baisses le salaire minimum.
Les salaires des fonctionnaires.
Là, c'est bon. Hein.
Mm. Et tu as une résurgence des épidémies, c'est génial. Là, c'est... Et ta jeunesse qui s'exode, c'est vrai que c'est génial.
C'est une autre question, parce qu'effectivement, devoir régler un problème de déséquilibre budgétaire et de dette, ça oblige à prendre des mesures comme ça, qui ont un effet antisocial énorme et durable. Là, ce dont on parle, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand on fait sauter des réglementations protectrices, il y a un mauvais moment à passer, généralement très bref si on est radical, et un bénéfice extrêmement considérable sur le moyen et le long terme. Mais le moyen terme, en fait, on y arrive assez vite. Et ça, c'est encore une fois bien documenté. On n'est pas le premier pays qui a une impasse identitaire, budgétaire, organisationnelle, économique. Il y a eu la Suède, il y a eu le Danemark, il y a eu le Canada, il y a eu la Nouvelle-Zélande, il y a eu les États-Unis et le Royaume-Uni.
Vous avez vu l'état de la Suède aujourd'hui ?
Des pays de gauche, des pays de droite. Moi, je parle des réformes qui ont été faites par Göran Persson il y a 25 ans, pas de la Suède d'hier. Quelques années, tous les gens qui ont fait ça ont obtenu une augmentation de la croissance et une réduction de tous les blocages qui avaient des conséquences.
Mais si c'était pas aussi compliqué que de louer, si c'était pas aussi compliqué de louer un bout d'appartement, une chambre, etc., je peux vous dire qu'on aurait une offre pléthorique. Or, aujourd'hui, l'offre est en train de disparaître. À Paris, l'offre locative est en train de disparaître. Il faut quand même le comprendre.
Bertille Bayard, ma consoeur du Figaro, écrit « Nationaliser Total s'il part ce côté à New York, comme le dit Eric Coquerel dans Les Échos, le groupe a le statut de société européenne, il sera parti plus vite que le Parlement aura voté une loi. »
Non, mais de toute façon, ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a évidemment pas les moyens de le faire.
En 167 milliards de valos aujourd'hui, donc ce serait...
L'idée est absurde et en plus, elle est irréalisable.
Mais je ne peux pas croire que ce soit l'ambition des dirigeants de Total de bouger Total. Total, elle a été faite par la puissance publique très largement.
On parle de la cotation.
Je pense que la cotation, c'est différent. D'abord, ça veut pas dire... Entre vous et moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu cocorico parce que tout se passe derrière des ordinateurs.
Oui, mais ça veut dire que
le clearing soit fait par NYC ou par...
L'action principale est aux États-Unis. Tandis qu'actuellement, c'est un certificat de dépôt aux États-Unis. Bon.
C'est une boîte qu'il faut arrêter d'insulter, c'est une boîte qu'il faut arrêter d'agresser, c'est une boîte qu'il faut encourager à faire davantage de transition énergétique, qu'elle n'en fait, probablement elle n'en fait pas encore assez, et elle doit s'intéresser notamment, c'est un appel que je lui lance, à la géothermie. La géothermie, c'est l'espoir de demain. La géothermie, c'est l'énergie renouvelable qui est à la fois pilotable et continue.
C'est vrai.
À la grande différence des éoliennes et du photovoltaïque, la géothermie, c'est absolument formidable. Moi, je fais beaucoup de géothermie. Et comme Total sait faire des trous, Total devrait être le champion de la géothermie mondiale.
On a merci d'être venu, chers amis. Bon. Merci Gilles Raveau.
Je voudrais rendre hommage à mes camarades qui ont successivement mis au point le concept d'élasticité sur le slip français et de taxes comestibles pour la restauration. Je trouve qu'on a été sur le plan sémantique, enfin vous avez été, pardon, particulièrement créatif ce matin.
Disait-il Philippe Manier en citant Guillaume Poitrénal et Gilles Raveau. On se retrouve demain à 9h. Enfin, si mes invités qui m'avaient dit oui m'annulent pas les uns après les autres, réalisant qu'il y a un pont, un viaduc, parce que c'est un peu ce qui se passe. Voilà, j'ai fait tout pour tenir le calendrier, machin, mais il y a des moments.
Vous avez vu qu'on a suspendu la discussion sur la semaine de 4 jours.
Oui,
parce qu'il n'y avait pas assez de monde en fait pendant les ponts pour en discuter.
C'est génial.
C'est formidable.
Il y avait hier dans le Figaro, il y avait un sondage où ils sont très très partagés les gens quand on leur pose la question sur la semaine de 4 jours. On a fini. Rendez-vous demain 9h si tout va bien.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.